France Inter.
Aujourd'hui, plastique alimentaire, attention, danger, raconté par...
Tania Pachef, nutritionniste et formatrice en santé environnementale.
Et Jean-Baptiste Fini, professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, écophysiologiste et spécialiste des perturbateurs endocriniens.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Pendant longtemps, le plastique alimentaire a été perçu comme un progrès sanitaire, un matériau propre, stable, capable de protéger les aliments, de prolonger leur conservation et d'éviter les contaminations. Au XXe siècle, dans un monde encore marqué par les intoxications alimentaires et les maladies infectieuses, c'est une promesse scientifique. Parmi les molécules au cœur de cette révolution, il y a le bisphénol A, inventé à la fin du XIXe siècle. Il devient au fil des décennies un pilier de l'industrie des plastiques et des résines alimentaires. Bon, boîte de conserve, revêtement intérieur, ticket de caisse, un succès industriel massif au point qu'au début des années 2000, on retrouvera des traces de bisphénol A chez plus de 90% de la population occidentale. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que les premiers signaux d'alerte sont anciens. Dès les années 1930, des chercheurs observent que cette molécule peut interagir avec le système hormonal. Mais à l'époque, la science ne sait pas encore penser ce type d'effet. On cherche des poisons visibles, immédiats, pas des perturbations lente, invisible, à faible dose. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour que le regard change, avec l'émergence du concept de perturbateur endocrinien et une nouvelle façon d'envisager la toxicité, non plus seulement combien une substance est toxique, mais quand, comment et à quelle dose. À partir de là, le bisphénol A devient un symbole, celui d'un décalage entre les avancées scientifiques et les cadres réglementaires, celui d'une molécule autorisée pendant des décennies, non pas parce qu'elle était prouvée inoffensive, mais parce que les bonnes questions n'avait pas encore été posée. Et lorsque le bisphénol A commence enfin à être interdit, une autre histoire s'ouvre, celle de ses substituts. D'autres bisphénols, très proches chimiquement, arrivent sur le marché, parfois sans que leurs effets soient mieux connus. Ce que raconte cette saga, ce n'est pas seulement l'histoire d'une molécule, c'est notre rapport au plastique alimentaire avec une question qui se pose. Que sait-on vraiment des plastiques qui entourent nos aliments et de leurs effets sur la santé? C'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Le bisphénol A, une molécule qui entre dans la composition du polycarbonate, un plastique alimentaire omniprésent dans notre quotidien, dans ses bonbonnes d'eau par exemple, ou encore dans le revêtement intérieur de ses boîtes de conserve, et même dans les biberons en plastique. Et le professeur Sultan se demande si cela ne pourrait pas perturber la santé et le développement sexuel des nourrissons.
Le bisphénol devrait, théoriquement, s'il y avait une adéquation entre les décisions des ministères et les données scientifiques, être interdit. Je ne peux pas être plus clair.
Voilà, de vrai, car c'était en 2009, extrait de complément d'enquête sur France 2. Tania Pachef et Jean-Baptiste Fini, bonjour.
Bonjour.
À tous les deux, bienvenue. Quand on regarde cette saga du bisphénol A, on comprend que donc, pendant longtemps, on a sous-estimé ce que les expositions faibles, mais répétées, pouvaient faire à nos organismes. Aujourd'hui, Tania Pachef, qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur notre vulnérabilité réelle face au plastique alimentaire?
Alors cette histoire, elle est intéressante effectivement parce que on ne s'est pas trop posé de questions sur cette molécule pendant très longtemps. Et puis au début des années 2000, des chercheurs ont commencé à vraiment se poser des questions sur cette activité œstrogénique. Et effectivement, grâce à une mobilisation citoyenne, d'associations, en fait, on a réussi à faire interdire le bisphénol A des biberons en premier, dans 2010, pardon. Parce qu'en fait, ce que l'on sait aujourd'hui des perturbateurs endocriniens, c'est qu'on a des périodes de vulnérabilité. Et donc, les bébés exposés plusieurs fois par jour à des biberons contenant du bisphénol A, là, ça commençait à alerter pour des raisons de santé publique.
Biberon chauffé, d'ailleurs, aussi, la pression est importante.
Alors, plus vous allez le chauffer, plus le risque de migration augmente. Donc, effectivement, plus on va chauffer le biberon, plus on met à risque les bébés.
Jean-Baptiste Fini, pour rebondir sur cette saga, oui.
De... Oui, les périodes de susceptibilité, donc face à ces polluants environnementaux qui perturbent les hormones, ces perturbateurs endocriniens, c'est un des paramètres clés qui est important à prendre en considération quand on regarde les effets à long terme. La saga du bisphénol A, comme vous l'avez rappelé, commence fin du 19e, et en 1936, on a Charles Dodds qui montre des effets œstrogéniques. Il montre les effets œstrogéniques non seulement du bisphénol A, mais aussi du substitut bisphénol F. Et en fait, pour les propriétés de polymérisation, pour pouvoir faire ces polycarbonates, en fait, ce bisphénol est réutilisé à la fin des années 50, début des années 60, pour ensuite redécouvrir, à l'aube des années 2000, les effets œstrogéniques.
Tania Patchev, est-ce qu'on en est sorti ou pas du tout? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que notre alimentation, elle reste continuellement exposée à ces substances?
Alors, le bisphénol A, comme on le disait tout à l'heure, a été interdit dans les biberons en France en 2010. Quelques années plus tard, il a été interdit normalement dans les contenants alimentaires en France aussi.
Ouais.
Alors, il y a eu des enquêtes qui ont montré qu'il restait quand même encore du bisphénol A. Mais la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que ce bisphénol A, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, en fait, il fait partie d'une famille des bisphénols.
On le remplace.
Voilà, il a des frères, des cousins.
Et par d'autres bisphénols, c'est ça?
On l'a remplacé, en fait, par d'autres bisphénols. Et aujourd'hui, se pose la question de la toxicité des autres bisphénols qui ont remplacé ce bisphénol A.
On va y revenir. On parlera évidemment des effets sanitaires. Mais avant ça, Jean-Baptiste Fini, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment sont fabriqués les plastiques alimentaires et ce qu'ils contiennent réellement? Alors, c'est quoi le procédé précisément?
Pour les plastiques, vous avez une polymérisation. Donc, en fait, vous avez un maillon d'une chaîne. Donc, si, par exemple, vous avez le bisphénol A, eh bien, la chaîne qui fera le plastique sera du polycarbonate. Si vous avez du styrène, vous ferez du polystyrène. Si vous avez de l'éthylène, vous ferez du polyéthylène. Donc, ça, c'est, on va dire, le composant est le majeur, majoritaire.
Donc, tout ça, c'est de la synthèse chimique,
c'est
évidemment.
C'est de la synthèse chimique et dans lequel vous allez ajouter des additifs.
C'est ça, parce que ça ne suffit pas, en fait.
Mais non, parce qu'il faut, par exemple, lui donner une certaine couleur, une certaine résistance au choc, une certaine souplesse, une certaine résistance aux UV. Donc, pour que ce plastique ait une propriété particulière, il faut lui rajouter des additifs. Et ce qui est assez effrayant, c'est de se dire qu'on a plus de 16 000 molécules qui ont été référencées comme pouvant être mises dans les plastiques, alors pas que alimentaires, mais plus de 16 000 substances, et qu'on a près de 5 000 additifs. Et donc, les combinaisons en fait qui sont possibles avec toutes ces molécules-là font que on ne peut pas être sûr de l'innocuité de toutes ces molécules qui vont migrer lors de l'utilisation de ces plastiques.
Et donc Tania Patchev, l'agroalimentaire a adoré évidemment les propriétés du plastique et à juste titre d'ailleurs. Ça a rendu des services phénoménaux.
Tout à fait. En fait, le plastique, c'est hyper pratique, c'est pas très cher, c'est léger, c'est souple ou résistant en fonction des choses que l'on veut, des options que l'on souhaite mettre en place. Ça peut être coloré, ça peut être transparent. Donc effectivement, ce plastique a inondé nos vies, en fait, que ce soit dans le monde agroalimentaire, mais un petit peu dans tous les secteurs d'activité industrielle. Et aujourd'hui, c'est compliqué, en fait, d'éviter le plastique à 100% parce qu'il est un petit peu partout dans nos vies.
C'est ça, même quand on croit qu'on n'a pas affaire à du plastique d'ailleurs aussi.
Alors effectivement, même quand on croit qu'on n'a pas affaire à du plastique, les fabricants de plastique, en fait, il y a quelques années, ont mis sur le marché des plastiques qu'ils ont joliment surnommés des bioplastiques.
Quand on met bio, c'est magique.
Ça rassure, c'est très
ça.
Beau.
On payait les yeux fermés.
Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comme le disait Jean-Baptiste à l'instant, en fait, la molécule de base, tu parlais de styrène, etc. On va prendre de la cellulose ou des végétaux, des fibres végétales, et on va faire une polymérisation de la même manière, mais ce qui va ressembler au plastique, entre guillemets, conventionnel à base de pétrole, c'est que les additifs que l'on va y ajouter, finalement, sont les mêmes que dans la recette qu'a décrit tout à l'heure Jean-Baptiste. Oui. Et donc, les risques de toxicité sont très proches.
Oui. Jean-Baptiste Fini, est-ce que ces substances sont toujours volontaires volontairement ajoutées par les industriels ou pas ?
Alors, vous avez une grande partie de ces substances qui sont volontairement ajoutées. Sur les 16 000 dont je parlais tout à l'heure, il y en a près de 2 000 qui sont des non intentionnellement ajoutés.
Ouais.
Ce qu'on appelle les NIAS, parce que c'est l'acronyme anglais. Et en fait, ces substances-là donc, sont soit créées lors du processus de fabrication du plastique, mmh. ou vont être créées lors de l'utilisation du plastique et le contenant, que ce soit alimentaire ou autre chose. Mais pour juste rebondir sur ce qu'on disait là,
ouais.
une des choses fondamentales aussi du plastique et de la révolution plastique, c'est le fait que ce soit jetable. Et c'est ce qui cause problème au niveau environnemental. Et c'est ce qui interroge maintenant sur le fait que près de 40% des plastiques qu'on retrouve dans l'environnement sont des emballages avec une durée de vie de moins de 3 jours. Donc on est vraiment sur cette propriété. Ça a été la révolution post-Deuxième Guerre mondiale où en fait on n'avait plus à s'embêter à faire la vaisselle, on pouvait voilà, tout jeter. Sauf que la vraie problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets ? On a créé un problème et maintenant on ne sait pas comment faire sans le plastique. Enfin, on peut faire sans, mais c'est difficile. Et on est avec une production qui ne fait qu'augmenter. On est à 450 millions de tonnes sur l'année 2023. Donc
à quelle échelle ? Celle de la France ou mondiale ?
Mondiale. Et les prévisions sont que cette production soit multipliée par 2, voire par 3 d'ici à 2060. Ce qui est une grosse problématique aussi environnementale, au-delà de la problématique de santé publique dont on ouais. parlait. Et moi, il y a une étude qui m'avait choquée, en fait, qui date d'il y a 2-3 ans, en fait, où un chercheur avait montré qu'en termes de biomasse, il y avait deux fois plus de biomasse plastique sur la planète que de biomasse animale. Et ça pose une réelle question sur notre devenir en tant qu'humain sur cette planète.
Oui, absolument. On est noyé par ces plastiques, on est noyé par toutes ces molécules. Et pourquoi elles posent particulièrement problème, d'ailleurs, Tania Patchev, dans l'alimentation, alors ?
Eh bien, elles posent problème parce que en fait, ces emballages, on l'a bien compris, en fait, ne sont pas inertes. Donc, quand vous allez mettre des aliments dedans, eh bien, vous avez des risques de migration de l'emballage vers le contenu. Mmh. Et effectivement, on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure aussi, mais plus vous allez chauffer, plus le risque augmente. Plus le temps de contact est long, plus le risque augmente. Et si les aliments sont gras et ou acides, on a aussi un risque de majorer la migration. Donc, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui vont dans le sens de ce risque de migration. Et les molécules qui migrent sont souvent des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est là que le problème commence.
Ouais, donc, Jean-Baptiste Fini, cette migration, elle est quasiment systématique. Tout dépend des usages, mais quand même, on a toujours un phénomène.
Il y a une étude de cette année, qui a été publiée cette année, qui montre que tous les plastiques relarguent, sans exception, oui. que ce soit du PVC alimentaire, que ce soit du polyéthylène, du polycarbonate, tous les plastiques relarguent des additifs ouais. ou des molécules qui ne sont pas liées de façon covalente.
C'est ce qu'on a vu avec les bouteilles d'eau, hein, tout simplement, hein, qui ne sont pas chauffées quand on les utilise, hein, mais qui relarguent aussi
oui, tout à fait.
Les molécules.
Et donc, ces questions-là, en fait, ces molécules-là posent question au niveau sanitaire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'utilisation de ces et l'ingestion de ces molécules de façon répétée, à faible dose mais sur un très long moment, va impliquer au niveau de notre santé.
Tania Patchev, qu'est-ce qu'on appelle justement un perturbateur endocrinien alors ?
Un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange de substances exogènes, donc qui vient de l'extérieur de notre corps, qui peut avoir un effet néfaste sur notre système endocrinien. Donc notre système endocrinien, c'est notre système hormonal. Mmh. Et cet effet, en fait, il peut avoir un effet, il peut avoir un impact rapide ou à plus long terme, peut-être, sur des générations futures, pas forcément la personne qui a été exposée à ce perturbateur endocrinien.
On va revenir évidemment abondamment sur les aspects sanitaires liés à ces plastiques alimentaires, puisque c'est le thème de l'émission aujourd'hui. Et puis j'imagine que vous allez recevoir beaucoup de messages et de questions, c'est déjà le cas, j'ai l'impression, sur le site de la Terre au Carré, me confirment Lucie Sarfati et Jérôme Boulet. Donc on se retrouve dans quelques minutes, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, et puis également vos messages vocaux avec l'application Radio France.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
On va parler un peu de ce film alimentaire. En fait, c'est du PVC. Le PVC, c'est du plastique. Donc, c'est une matière qui est imperméable, qui est très chouette pour envelopper les aliments, conserver leur fraîcheur. Ça ne va pas se déshydrater, donc c'est vraiment très chouette. Maintenant, c'est du plastique, effectivement, mais ça peut toujours être libéré au contact des aliments. Et si vous regardez l'emballage, vous allez être surpris. En dessous, vous allez trouver une mention. Il y a marqué combien pour l'emballage de tous les aliments. Mais sauf ceux conservés dans l'huile, 100% gras ou ceux constitués d'émulsions d'eau dans l'huile. Tout ce qui est gras est incompatible avec le film alimentaire. Pourquoi ? Parce que ça facilite le transfert de substances toxiques du film vers l'aliment.
Et il s'appelle Christophe Mercier, il est microbiologiste. C'était dans le Mag de la Santé en décembre 2024. Il y a donc tout juste un an. On parle des plastiques alimentaires avec Tania Patcheff, nutritionniste et biochimiste, et Jean-Baptiste Fini, éco-physiologiste au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et justement, Tania Patcheff, vous avez apporté tout un tas de contenants avec vous, dont du plastique alimentaire, hein, précisément.
Bah oui, bah j'ai amené le fameux dont parlait... dont on parlait à l'instant.
Christophe Mercier.
Christophe Mercier, merci. Et puis, ce fameux bioplastique, en fait, pour que les gens le voient, en fait, on a l'impression que c'est du carton.
Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans beaucoup de... même de magasins bio, d'ailleurs. Hein.
Oui, bah oui, parce que c'est très utilisé. L'idéal, évidemment, ce serait du verre que l'on va consigner, mais pour remplacer le plastique habituel, conventionnel, ouais. En fait, maintenant, on utilise beaucoup celui-ci. Donc ça, c'était un petit dessert dans une boulangerie.
Ouais.
En fait, le carton, c'est pas imperméable. Si vous mettez de l'eau dedans, eh bien, ce que vous allez mettre dedans, ça va vite ruisseler.
Ouais.
Et votre contenant sera complètement inutile.
Donc, il faut rajouter du plastique.
Et donc, on rajoute du plastique. Donc, soit il est rajouté dans la masse, soit il y a un film à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt dans le deuxième objet que j'ai apporté. Donc ça, c'est une barquette qui est utilisée dans les cantines,
ouais.
Qui est en cellulose, donc bioplastique, très rassurant. Mais en fait, quand on s'amuse à l'éplucher, eh bien, on voit bien qu'à l'intérieur...
C'est comme si elle pelait, il y a une espèce de petite pellicule toute fine.
D'ailleurs, il y a un indice qui s'appelle l'indice de pelabilité,
figurez-vous.
Donc là, on s'est amusé à le peler et effectivement, on retrouve un film plastique qui est au contact avec les aliments.
Et normalement, les ingrédients en plastique sont interdits dans les cantines scolaires aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, ils sont interdits depuis le 1er janvier 2025, grâce à une loi que nous étions plusieurs à porter en 2018. Mais malgré l'existence de cette loi, aujourd'hui, en fait, on a encore énormément de contenants en plastique ou bioplastique.
On va y revenir, hein, évidemment, avec vous. Jean-Baptiste Fini, on va évidemment parler de l'aspect sanitaire. Les premières préoccupations, vous le disiez, ça date des années 30, hein, quand même.
Oui, les premières démonstrations que les bisphénols, donc les maillons de la chaîne des polycarbonates, étaient des œstrogéniques, donc ils mimaient les effets des hormones féminines, eh bien, datent des années 1930.
Tout ça, maintenant, est évidemment très bien établi scientifiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute sur la question.
Non, il n'y a plus de doute. En fait, le bisphénol A a été classé comme substance très préoccupante par l'Europe en 2017. Donc, on ne pouvait pas le classer perturbateur endocrinien avant 2023 parce que la réglementation n'avait juste pas le cadre fait pour les perturbateurs endocriniens, mais ça a été le cas depuis 2023. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aussi des effets. Donc, la France a été assez précurseur sur l'histoire du bisphénol A, puisque l'ANSES, donc l'Agence Nationale de Sécurité des Aliments et des Travailleurs, avait en 2012 établi le fait que des faibles doses pouvaient être vues avec le bisphénol A et que des effets sur le développement de la glande mammaire avaient été aussi observés. Ouais. Donc on avait des éléments assez fiables pour montrer que ces éléments du plastique, en fait, pouvaient mimer les hormones. Mais on a des exemples même antérieurs à ça, avec notamment dans les laboratoires un surfactant qui avait mimé aussi les hormones féminines et qui venait d'un tube en plastique utilisé dans les laboratoires.
Qu'est-ce que c'est qu'un surfactant ?
Un surfactant, c'est ce que vous allez rajouter dans une formulation, par exemple un détergent.
Oui.
Et c'est ce qui va mettre la petite couche brillante quand vous avez fini de passer la serpillière. Oui. Bien, c'est quelque chose qui va donc, par définition, ne pas être lié de façon définitive avec votre plastique, mais qui va permettre de l'isoler pendant un moment. Et donc, c'est ce qui avait été rajouté dans le tube, dans les tubes de centrifugation qu'on utilise dans les laboratoires. Et en fait, il a été montré en 1991 par Anna Sotto que ce produit, donc le surfactant, pouvait provoquer la prolifération des cellules cancéreuses humaines.
Tania Patchev, pourquoi le système hormonal est particulièrement vulnérable à ces substances ?
Alors, ces substances, en fait, elles ressemblent énormément aux hormones que nous avons dans notre corps. Mmh. Et donc, elles sont capables de les mimer, de les bloquer, d'accélérer le fonctionnement d'une hormone, en tout cas en prenant la place de l'hormone normale. Et donc, ça vient mettre le bazar, en fait, dans notre système hormonal. Et notre système hormonal, c'est un système très fin, en fait, où les hormones circulent en très petite quantité dans le sang et vont donner des informations depuis l'organe où elles ont été produites jusqu'à un organe que l'on appelle l'organe cible. Et donc, si ces hormones ne vont pas au bon endroit ou vont augmenter l'activité de l'organe cible, eh bien là, on va se retrouver avec le risque de développer des pathologies.
Qui sont les populations les plus exposées ou les plus vulnérables ?
Alors, les plus vulnérables, on sait aujourd'hui que on a des moments dans la vie où on a des fenêtres de vulnérabilité. Et particulièrement, on a la grossesse, la petite enfance et l'adolescence. Ce sont des moments où, justement, y a des grands bouleversements hormonaux. La grossesse, tout le monde voit de quoi on parle. Et puis les petits, en fait, les tout-petits, ils sont en pleine croissance, ils sont complètement immatures, système digestif, système respiratoire, système immunitaire. Et donc, ce qui fait que ça les met à risque. Et puis, les adolescents, on sait aussi, c'est un boom hormonal. Et donc, eux aussi sont plus à risque que les autres.
Jean-Baptiste Fini, à quel moment on a commencé à mesurer l'imprégnation réelle de la population sur ces questions ?
Les études d'imprégnation sur les cohortes ont commencé dans les années 2000. En fait, on voit déjà l'imprégnation assez globale de l'ensemble des populations avec les plastifiants, les plastiques, les pesticides, les perfluorés. Donc, dès les années 2000, on commence à avoir sur les cohortes américaines. Et puis bien sûr, en France aussi, on a ces études d'imprégnation qui montrent que nous sommes tous exposés aux perfluorés, aux bisphénols, aux parabènes. Donc on est à plus de 90%. Les concentrations de phtalates, par exemple, plastifiants, donc ce qui assouplit les plastiques, on est à 99% en fait, tous exposés avec ces phtalates et à des concentrations qui sont relativement hautes. C'est-à-dire que on est par rapport à l'ensemble des autres molécules, on est presque à 100 fois plus, 1000 fois plus de phtalates que toutes les autres.
Il y a eu l'étude Esteban en 2019, Tania Patchev.
Oui, en fait, il y a une étude de biosurveillance française qui a été faite par Santé publique France, qui s'appelle Esteban. Et dans cette étude, non seulement on a trouvé que 100% des Français étaient contaminés ou en tout cas imprégnés par ces molécules, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que justement les petits, les enfants, en fait, avaient des taux qui étaient supérieurs à certains adultes. Probablement à cause de ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire qu'ils sont en pleine période de vulnérabilité et ont des comportements, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais non seulement ils sont immatures, mais en plus les petits ont des comportements différents des adultes, ils sont beaucoup plus près du sol, ils mettent beaucoup de choses à la bouche, et on sait que les polluants tombent au sol. Donc effectivement, ils se contaminent plus que nous les adultes.
Jean-Baptiste Fini, on parle beaucoup de la période des 1000 jours, qui est une période cruciale. Qu'est-ce que ça raconte ?
Donc la période des 1000 jours, c'est la fécondation de l'œuf jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et donc pendant cette période, en fait, les hormones vont avoir des rôles clés sur la prolifération des cellules, la mise en place des organes. En fait, il faut voir qu'une hormone, c'est un messager en fait, chimique qui va permettre de faire communiquer des organes qui ne peuvent pas bouger. Donc ça va permettre une communication entre deux organes. Et donc les molécules chimiques qui soit prennent la place de ces hormones, soit empêchent le bon fonctionnement des hormones, eh bien, vont empêcher cette communication. Et donc, ça peut entraîner des conséquences qu'on voit tout de suite, mais ça peut aussi entraîner des conséquences qu'on voit beaucoup plus tard. Ça peut nous rendre vulnérables à, par exemple, à une infection plus tard dans notre vie. On avait, par exemple, l'histoire aux États-Unis d'un mélange de solvants qui sont utilisés pour liquéfier le sol et récupérer le gaz de schiste. Eh bien, en fait, si on expose, par exemple, des grenouilles avec ce mélange, on se rend compte que personne, aucune de ces grenouilles ne va mourir, mais par contre, dès qu'il y a la première grippe, toutes celles qui ont été exposées vont décéder. à cause en fait d'une susceptibilité, d'une vulnérabilité qui a été engendrée par l'exposition à des produits chimiques. Et c'est en fait c'est cette idée qu'il faut voir, c'est que on peut très bien être exposé, mais sans avoir une conséquence tout de suite. Et donc c'est là où on se dit que c'est une période de vulnérabilité, ces 1000 premiers jours, parce qu'en fait toute exposition qui peut être faite pendant cette période-là peut avoir des répercussions tout au long de notre vie, y compris notre quatrième âge, troisième ou quatrième âge.
Tania Patchef, la réglementation a évolué évidemment autour, par exemple, des bisphénols A, avec un classement en toxicité qui date de quand d'ailleurs ? Quand est-ce qu'on a commencé réellement à parler de toxique pour ces substances ?
Bah une fois qu'ils ont été classés perturbateurs endocriniens, et il y avait des...
Le terme perturbateur endocrinien a été défini en 91 à la suite d'une conférence, la conférence de Wingspread. À partir de là, s'est mis en branle un système législatif qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place, puisqu'on n'est qu'en 2023 pour avoir la classification perturbateur endocrinien dans ce qu'on appelle CLP, Classification Labeling Packaging. Mais sinon... Oui, en fait, on était face à un nouveau type de toxique, en fait.
On a parlé des substituts tout à l'heure, la grande famille des bisphénols, vous lisiez. On va écouter un extrait d'un reportage de TF1 en juillet 2019.
Cela avait rassuré les consommateurs. En supprimant le bisphénol A des tickets de caisse, des boîtes de conserve, des canettes ou encore des biberons, la France faisait figure de pionnière. Oui, mais voilà, son remplaçant, le bisphénol S, toujours présent dans les emballages alimentaires, est aujourd'hui montré du doigt.
Une centaine de publications montrent que le bisphénol S a la même toxicité que le bisphénol A sur toute une série de fonctions physiologiques, la reproduction, l'obésité, le développement du cancer, du sein, etc.
Pour s'en prémunir, voilà un premier indice. Le chiffre 7 de ce logo indique la présence de polycarbonate. C'est dans ce plastique que se trouve le bisphénol.
Voilà, Tania Patchef. On a l'impression d'un puits sans fond quand même, hein, tellement la famille est grande autour de ces molécules.
Il y a une trentaine de bisphénols qui existent. Effectivement, le bisphénol A a été remplacé par le F, le S, qui vient d'être cité.
Et donc ça, c'est légalement sur le marché ?
Alors, c'est légalement sur le marché parce qu'aujourd'hui, ces autres bisphénols ne sont pas interdits et donc sont présents. Et dans les études de biosurveillance, justement, on voit qu'on a un petit peu moins de bisphénol A dans nos corps et un peu plus de bisphénol S parce que justement, l'équivalent se met en place.
Bah super, quoi, en gros.
Hein non, c'est pas super,
effectivement. On en a remplacé un pour un autre. Ouais. On verra ce qu'on peut faire concrètement à l'échelle collective, individuelle, pour essayer de lutter quand même contre ces substances. Et puis, vous répondrez aux messages qui arrivent pour vous sur France Inter. Il y en a beaucoup.
France Inter. La Terre au carré.
À l'origine, il y a la loi Egalim en 2018. Elle prévoit de bannir le plastique des cantines dans les écoles et les crèches, au motif qu'il peut être toxique pour les enfants, surtout lorsqu'il passe au four. Sous l'effet de la chaleur, des particules nocives peuvent migrer vers la nourriture et donc être ingérées. Au 1er janvier 2025, la loi est entrée en vigueur. Fin février, le gouvernement décide d'exclure de la loi les couverts et la vaisselle en plastique. Mais les industriels, justement, ne comptent pas en rester là. Pas question de renoncer au plastique dans les cantines, disent-ils. Ils se battront contre cette nouvelle loi jusqu'à Bruxelles, s'il le faut.
France Info, c'était en mars dernier. Tania Patchef, nutritionniste et biochimiste. Jean-Baptiste Fini, éco-physiologiste, pour parler donc ensemble des plastiques alimentaires. On voit d'ailleurs, Tania Patchef, que les enjeux dépassent largement le cadre scientifique et sanitaire, hein, ça devient politique, notamment dans les cantines scolaires, avec un lieu qui est évidemment ultra symbolique.
Oui, tout à fait. Les enfants sont captifs, c'est-à-dire que les parents qui travaillent laissent les enfants à la cantine et donc les enfants n'ont pas le choix que de manger les repas qui arrivent et qui sont emballés, réchauffés et servis dans ces barquettes en plastique. C'est la raison pour laquelle, en fait, cette loi existe. Et malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas en place partout. Il y a énormément de villes qui sont encore avec ces emballages. Alors que ce soit du plastique, entre guillemets, pétro-sourcé, ou les nouveaux bioplastiques, parce qu'il y a énormément de collectivités qui croyant bien faire, en fait, on remplaçait les barquettes en plastique par des barquettes en bioplastique, mais comme on l'a vu tout à l'heure, bah en fait, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc par rapport au risque sanitaire.
Ouais, c'est un peu désespérant quand même. Hein. Quand on essaie de faire des efforts, en fait, on s'aperçoit qu'on ne résout rien.
Alors, On peut résoudre cette situation, c'est-à-dire que si on arrêtait d'utiliser des emballages jetables et qu'on passait sur des contenants durables et réutilisables, en fait, dans les cantines, on sait faire ça depuis très longtemps. Moi, quand j'étais gamine, on servait dans des bacs en inox. Alors, il y avait peut-être plus de cuisinières dans les écoles et un peu moins d'usines à fabriquer des repas, mais tout était dans des bacs en inox. Et aujourd'hui, dans n'importe quel restaurant d'entreprise, tout est en inox, en fait. Alors, pourquoi nos enfants, qui sont en plus en pleine période de vulnérabilité, on leur sert des repas dans des contenants comme ça?
Jean-Baptiste Fini, pour rebondir là-dessus.
Tout à fait. En fait, on est sur quelque chose qui est, d'un point de vue environnemental, nécessaire, et d'un point de vue sanitaire, qui est aussi nécessaire. Ouais. Et donc, on se rend compte qu'on a une fronde en face pour continuer à utiliser le plastique, alors que des évidences sont là pour montrer que, d'une part, quand on réduit le plastique dans les contenants, la partie de plastique va quand même se dégrader en microplastique et abonder dans l'environnement, ce qui va aussi nous revenir en boomerang après, à la fin, dans notre boisson.
Repasse dans toute la chaîne alimentaire.
Exactement, donc on va la récupérer après dans les aliments bruts qu'on va récupérer. et puis d'un point de vue sanitaire, en fait, ce qui est en contact avec l'aliment reste du plastique. Et c'est même pire, c'est-à-dire que plus c'est fin, plus on a de risques que les molécules qui sont dans le plastique migrent dans l'aliment. Donc, en fait, on est face à une fronde qui est juste de dire on veut continuer à utiliser du plastique, alors qu'il faudrait vraiment que cette loi soit appliquée.
Alors, quel est votre message? S'il fallait retenir une chose, justement, des choses à faire, précisément pour essayer de se protéger notre environnement et notre santé, quel serait le message que vous délivreriez aux auditeurs?
Alors, il y a effectivement le fait de limiter au maximum les achats que vous pouvez faire, que ce soit alimentaire ou autre, mais là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des achats alimentaires, qui soient emballés dans du plastique, et notamment les plats que vous allez pouvoir réchauffer peut-être au micro-ondes. Étant donné qu'on sait que ces plastiques sont dangereux, si vous devez en acheter, au moins de les enlever des emballages, de les poser dans une assiette en verre ou en porcelaine, et après de les réchauffer au micro-ondes ou de les mettre dans une casserole. Ça, c'est la première chose. Et puis, on parlait des cantines. Il faut que les parents, en fait, aient connaissance du fait que dans les cantines de leurs propres enfants, il y ait ou pas du plastique. Et si c'est le cas, de s'adresser à leur mairie. Parce qu'en fait, pour les maternelles et les primaires, ce sont les mairies et les crèches municipales. Ce sont les mairies qui sont en charge de la restauration scolaire. Donc les parents peuvent tout à fait écrire et dire, bah voilà, on n'est pas content et vous n'êtes pas dans les clous par rapport à la loi. Faites en sorte d'être en règle avec cette loi.
Jean-Baptiste Fini, votre message à vous avant de passer au questions, parce qu'elles sont nombreuses et elles seront aussi sur ces sujets-là.
Mon message, pour aller dans le même sens, en fait, on peut, à l'échelle individuelle, faire des petits gestes et éviter quelques expositions à certains produits chimiques. On peut aérer, on peut transvaser, ne pas réchauffer dans du plastique. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est aussi la mobilisation qui a fait que tout ça a changé pour le bisphénol A. Et il faut que des décisions soient prises et qu'il y ait une volonté politique forte d'avancer dans cette direction-là. Je pense que c'est plutôt à cette échelle-là que j'ai envie de dire.
Allez, on passe aux questions. Voilà, Lucie Sarfati qui m'apporte à nouveau beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Sophie demande pourquoi les emballages plastiques n'ont pas une étiquette avec leur composition exacte et leur additif. Jean-Baptiste Fini.
Alors, normalement, on ne peut pas déjà, c'est-à-dire que la composition exacte d'un plastique, même si vous la demandez au fournisseur, on ne l'aura pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir son composé majoritaire, mais les additifs, on ne sait pas. Les additifs qui sont mis dedans. Et donc, c'est juste une impossibilité.
Donc, on ne peut pas l'avoir.
On ne pourra pas l'avoir. C'est-à-dire qu'on part de pellettes qui vont être fondues. Ensuite, on a des molécules qui vont se former. On a des additifs à rajouter. Mais la composition exacte ne pourra pas être connue.
Philippe demande, que penser des emballages plastiques qui enferment nos médicaments? Tania Patchef.
Bah, c'est un petit peu la même problématique.
Ça paraît un peu contradictoire quand même de mettre des médicaments dans du plastique qui vont relarguer des substances qui pourraient nous rendre malades.
Tout à fait. C'est une situation aujourd'hui qui est un petit peu compliquée. Enfin, j'ai pas la réponse, mais effectivement, c'est le cas.
On a un message audio tout de suite.
Bonjour, c'est Eric de Nantes. En vous écoutant, j'ai vraiment envie de jeter toutes mes boîtes de conservation, les boîtes plastiques que j'ai dans mon tiroir de cuisine. Vous savez, celles de type qu'on peut récupérer chez les traiteurs, en se disant bah, on va s'en servir pour garder nos aliments quelques jours dans le frigo. Donc, c'est quoi vos conseils là-dessus ?
Voilà, on va faire vider les placards après cette émission, Tania Patchef.
Bah, effectivement, on va lui conseiller plutôt d'éviter de réutiliser ses emballages. S'il a des clous, des vis ou des choses comme ça à ranger, là, ça ne craindra rien. Mm-hmm. Par contre, pour mettre des aliments dedans, oui, c'est à éviter, effectivement.
Une question de Patrice, faut-il s'interdire d'acheter de l'huile en bouteille plastique ? Alors là, on coche toutes les mauvaises cases, j'ai l'impression.
C'est une bonne question, c'est-à-dire que oui, on est sur du plastique, on est avec un aliment gras, et donc on se dit on va maximiser la migration. Mais à ma connaissance, en fait, on n'a pas d'études qui montrent quelles sont les quantités de produits qui sont dans l'huile de tournesol ou l'huile d'olive. Mais oui, clairement, l'idée, c'est quand même d'éviter de mettre du gras dans du plastique.
Ouais, Camille.
Plutôt du verre. Ouais. Peut-on imaginer, nous demande Camille, une différence en termes de dégradation des plastiques entre les modes de cuisson, cuisson au four, classique, micro-ondes ?
Alors, les emballages...
Est-ce qu'il y a une hiérarchie ?
Alors, les emballages que vous allez trouver dans le commerce, le réchauffage est conseillé plutôt au micro-ondes. Dans le four, ça va fondre, donc là, c'est encore plus dangereux. Dans les cantines, il faut savoir que ces barquettes, elles sont réchauffées dans des fours, comme des fours que vous avez chez vous, hein, des fours traditionnels. Mm-hmm. On n'est censé pas dépasser 110 degrés, mais comme il manque souvent de personnel, ou en tout cas, on manque de temps, bah, souvent, on met plus fort, et du coup, les barquettes fondent.
Il y a une question de Béatrice qui rejoint ce qu'on disait hors antenne tout à l'heure sur les lunettes. Elle nous dit « Je porte des lunettes depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on doit se méfier des montures en plastique ou des plaquettes en contact avec notre nez au moins 16 heures par jour en ce qui me concerne ?» Ben oui, ça nous concerne tous.
Hein. Ben on en parlait, hein. Mathieu en porte, j'en porte. Ouais. Et elles sont en plastique, mais je n'ai pas d'études en tête.
Est-ce qu'on a beaucoup de plastique dans le nez, par exemple, Jean-Baptiste Fini ?
Si vous avez des plastiques dans le nez, ça vient plutôt des microplastiques de l'air plutôt que de ceux de vos lunettes, à mon avis.
Oui, je pense.
Allez, on a un message vocal de Jean-François.
Que penser de la toxicité des films alimentaires dans lesquels on fait cuire souvent des aliments en papillotes ? Cela représente-t-il un danger important ou pas ? Voilà, merci de votre réponse.
On en a parlé tout à l'heure.
Oui,
déjà,
probablement, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, ces films sont très souples. Donc, les phtalates, en fait, sont des assouplissants des matières plastiques, donc contiennent probablement des phtalates, et on sait que les phtalates sont des perturbateurs endocriniens, donc même s'ils sont conseillés à être utilisés, et notamment je pense aux restaurateurs, parce qu'il existe deux types de films alimentaires, le film que vous pouvez aller acheter au supermarché, mais il y en a un deuxième qui est vendu aux restaurateurs. Personnellement, je me pose beaucoup de questions sur la toxicité de ces films-là.
Ouais. Une question de Céline, est-ce qu'il y a un rapport entre le plastique et les maladies de la thyroïde ? Jean-Baptiste, c'est fini, c'est votre sujet en plus.
Oui, pour faire une réponse courte, oui. C'est-à-dire que les additifs qui sont utilisés dans les plastiques peuvent perturber le bon fonctionnement des hormones thyroïdiennes. Donc là, on parle des phénols, mais on parle, alors c'est plutôt des retardateurs de flamme bromée, les tétrabromo-bisphénols-A, et certains phtalates, mais aussi des mélanges de produits chimiques, et toujours avec des périodes de susceptibilité.
Viviane nous dit qu'elle est directrice de crèche sensibilisée depuis plusieurs années par les polluants plastiques. Je voudrais savoir, dit-elle, si les couvercles silicone que l'on peut mettre sur un verre en métal est exemple de polluant pour les enfants ?
Alors non, le silicone n'est pas exempt, et normalement, j'accompagne des crèches justement à essayer d'arrêter d'utiliser les plastiques. Normalement, les couvercles ne sont pas passés au four pour les réchauffer, donc le risque est limité, mais les silicones ne sont pas non plus parfaits.
En fait, le silicone n'est pas un plastique parce que c'est une chaîne de silice et pas de carbone, mais en fait, vous avez les mêmes additifs dedans.
Lisette, qui doit nous suivre en streaming, donc elle doit voir la vidéo en direct de l'émission, parce qu'elle vous voit avec un masque sur le nez, Jean-Baptiste Fini. Elle demande si vous portez un masque avec du plastique à l'intérieur.
Elle a raison, c'est du polypropylène.
Malheureusement. Puis dernière question, comment font vos invités pour ne pas cauchemarder sur les perturbateurs endocriniens, demande Gilles, ce sera la dernière intervention.
Ben, moi, je cauchemarde plus parce qu'en fait, j'essaye de limiter au maximum et surtout, j'essaye de faire des choses pour limiter les risques pour les autres.
Il faut agir.
Il faut agir.
Voilà, agir, c'est déjà comprendre et c'est comme ça qu'on avance.
Bon, il faut que nos politiques agissent aussi, hein, parce que tout repose sur nos frêles petites épaules. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. On peut réécouter ce dossier évidemment en podcast sur le site de Radio France. Merci à Lucie Sarfati qui l'a préparé, David Iboué-Black à la technique et Jérôme Boulet qui réalisait l'émission.